Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Il y a encore un petit peu de place. Merci d'être avec nous pour cette conférence qui porte pour titre « Projet de construction ou de rénovation des bâtiments. Comment identifier les prestataires compétents en BIM ?» Et c'est bien là, finalement, la question, c'est comment aujourd'hui pouvons-nous, face à la multiplication des offres, identifier à coup sûr les bons prestataires, en fait les prestataires compétents, comme c'est écrit dans cette question, et donc trouver les bonnes compétences nécessaires au succès d'un projet de construction ou de rénovation. Pour parler de ce thème, nous avons trois invités sur ce plateau. Stéphane Mouchot, directeur général, qui est là, de PQIB, Julien Mercier, fondateur d'Impact, Impact en deux mots, et puis Adrien Libessard, BIM manager de Bérim. Alors, merci messieurs d'être avec nous tout d'abord, cette conférence organisée par PQIB. Un mot avant de rentrer dans le vif du sujet, Adrien Libessard, on va commencer par vous. Un mot sur vous, mais surtout sur Bérim.
Bonjour à tous. Donc du coup, je suis le responsable BIM du groupe Bérim. Bérim intervient en tant que bureau d'études, tout corps d'État. On fait aussi du BIM management, de la MO BIM, de la HQE, de l'économie de la construction. Enfin, un bureau d'études pluridisciplinaire. Voilà.
Est-ce que vous l'avez entendu au fond? Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait... C'était un peu juste. Je vais vous demander de recommencer, de parler un tout petit peu plus près.
Vous m'entendez bien? Ah oui, là c'est mieux, là. On est bien là. Donc je suis le responsable BIM du groupe Bérim. Bérim est un groupe pluridisciplinaire qui intervient en tant que bureau, enfin qui est un bureau d'études pluridisciplinaire. Il fait tous les corps d'État. On fait également des missions de BIM management, d'AMO BIM. On a aussi une filiale HQE qui est AGI2D. Donc disons qu'on travaille sur l'ensemble des corps d'État techniques au sein d'une maîtrise d'œuvre.
Julien Mercier, un mot sur Impact.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Julien Mercier, donc je suis le fondateur de la société Impact. Donc nous, on est une société spécialisée dans le conseil en management BIM et AMO BIM. Et je suis instructeur auprès de l'OPQIBI pour les dossiers de qualification.
Et puis notre dernier intervenant, Stéphane Mouchot, j'allais dire, on ne vous présente plus, ni au PQIB non plus. Enfin, malgré tout, quelques mots de rappel de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
Bonjour à tous, donc je suis Stéphane Mouchot, je suis le directeur général de l'OPQIBI, donc l'organisme de qualification de l'ingénierie. Et je vais vous présenter en quelques mots l'OPQIBI lors de mes premières diapos.
Un dernier mot, Stéphane Mouchot, si vous me le permettez, avant de vous laisser la parole. Juste pour vous dire que vous allez assister à une présentation formelle d'une petite trentaine de minutes maximum et qu'on va se conserver entre 10 minutes et un quart d'heure après pour que vous puissiez échanger de vive voix avec nos intervenants. Donc si vous avez des questions qui vous viennent à la tête, gardez-les en mémoire. On pourra, les intervenants du moins, pourront y répondre à l'issue de cette conférence. Stéphane Mouchot, je vous laisse la parole.
Merci à tous. Donc oui, l'intitulé de la conférence, c'est comment identifier les prestataires BIM pour les projets de rénovation et de construction quand on est notamment maître d'ouvrage. Et c'est l'objectif justement des qualifications qui ont été mises en place en 2020 à la demande des professionnels de l'ingénierie, hein, notamment les fédérations Synov et Syntec Ingénierie et quelques maîtres d'ouvrage dans la ville de Paris. Donc on a mis en place trois qualifications en 2020 dont les contenus vont vous être présentés par Julien et par Adrien. C'est la 19-20 AMO BIM pour les projets de bâtiment, la 19-21 ingénierie d'ouvrage de bâtiment dans le cadre de projets développés en BIM, c'est pour en gros la maîtrise d'œuvre en BIM, et le BIM management pour des projets de bâtiment. Alors, juste un petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet des qualifications. Donc, rappelez que l'OPQIBI, c'est l'organisme qui délivre des certificats de qualification, donc aux prestataires d'ingénierie. Et le but de ces certificats, c'est justement d'attester des compétences et du professionnalisme de ces structures afin de permettre aux maîtres d'ouvrage, quand ils ont des besoins, de trouver des prestataires qualifiés. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de structurer l'offre d'ingénierie, et notamment en matière de BIM, puisque l'ingénierie n'est pas une profession réglementée et qu'il n'y a pas de nomenclature officielle ni de l'ingénierie, ni des prestations BIM. Alors l'OPQIBI, c'est une association de loi 1901, accréditée par le COFRAC et présidée par un maître d'ouvrage depuis 2015. Voilà pour la petite introduction sur l'OPQIBI et je passe tout de suite la parole à Julien.
Rebonjour. Donc on va parler rapidement de la qualification 19-20, donc la qualification en AMO BIM. Donc comme je vous le disais, je suis un instructeur, on est 3 ou 4 je crois. Ouais. On est 4 à instruire les dossiers. Bon, je vous laisse lire rapidement en fait le contenu des dossiers, mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est ce qu'on attend concrètement. Déjà, la mission d'AMO, pour nous, ça concerne vraiment l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme son nom l'indique. Et ce qui nous est important, c'est effectivement d'identifier la capacité qu'aura l'entreprise. Donc, ce qui se présente, c'est souvent des bureaux d'études ou des sociétés de conseil qui sont amenés à faire ces missions. Et on va s'attacher effectivement à identifier sa capacité à réaliser correctement la mission. Donc déjà, le premier point, ça va concerner effectivement la façon dont il va s'y prendre en fait pour réaliser la mission. Donc comment il va identifier les objectifs du maître d'ouvrage, comment il va identifier les cas d'usage, la partie aussi charte BIM. Et donc on part sur des exemples, donc on demande en fait des exemples de réalisation qui ont été faits et qu'on ait réellement le processus, qu'on comprenne réellement comment ils travaillent. Si je vous dis ça, c'est que certains vont déposer des dossiers en mettant des généralités sur le BIM, etc. Ce qui nous intéresse, c'est concrètement, vous, en tant que on va dire prestataire potentiellement, si vous êtes amené à postuler, comment vous réalisez réellement ces missions, comment vous assurez quelque part que votre mission est bien réalisée, que vous avez pu en fait bien accompagner votre maître d'ouvrage sur la partie objectif et usage BIM. En complément, bien sûr, on va regarder les moyens humains. Donc, on va regarder les qualifications. Donc, à minima, on demande des gens qui travaillent dans le secteur de la construction. C'est-à-dire que les informaticiens purs et durs, ça va être un peu compliqué. Il faut qu'il y ait quand même un background sur la partie bâtiment, qu'ils sachent de quoi on parle. Et en fait, la qualification va dépendre aussi de l'expérience de la personne et de son niveau d'études, comme c'est mentionné là. On demande également une particularité, que la personne ait réalisé pendant 3 ans des missions de BIM management. Pourquoi ? Parce qu'on considère que globalement, la mission d'AMO BIM ne peut être réalisée qu'à partir du moment où on a été vraiment confronté au terrain de façon complètement opérationnelle. Donc, on a pu réaliser des missions de BIM management. Et donc, ça, c'est une condition nécessaire. La plupart des gens respectent cette condition. Et je dirais que s'il y a des dossiers qui ne passent pas, c'est rarement par rapport aux moyens humains. On retrouve globalement des gens qui ont les compétences en interne. Au niveau des moyens matériels, effectivement, on va s'assurer que l'entreprise dispose de tous les moyens, notamment sur tout ce qui va concerner la partie checker, capacité à contrôler la qualité des maquettes. Donc là, je ne vais pas vous faire de liste, mais globalement, on pense à des solutions comme Solibri, BIM Collab ou autres, mais globalement, qu'ils aient bien tous les outils pour réaliser la mission. Là où, en fait, la difficulté... là où on a des dossiers qui passent pas souvent, enfin en ce qui me concerne, c'est sur la partie méthodologie. On arrive à identifier des personnes qui ont potentiellement la compétence, on arrive à voir des entreprises qui ont la capacité potentiellement à réaliser les missions au travers des outils qui sont proposés en termes de checkers, comme je le disais, de plateformes, voire de modeleurs. Après, c'est sur la méthodologie, et c'est parce que c'est un des seuls moyens qu'on a concrètement de mesurer la maturité de l'entreprise. Et la méthodologie, en fait, c'est comment elle s'est appropriée la mission, comment elle va décrire le processus. Et ce qu'on voit souvent, alors pas tout le temps heureusement, c'est en fait des généralités. En gros, je vais identifier les objectifs BIM de mon client, je vais définir quelques cas d'usage et je vais vérifier la qualité des maquettes qui m'en sont remises par l'équipe de maîtrise d'œuvre, par exemple. Ça, concrètement, moi, en ce qui me concerne, je l'accepte pas. Il faut qu'on sache exactement comment ça se passe. Est-ce que vous faites des réunions ? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont créés ? Est-ce qu'il y a une conduite du changement par rapport aux maquettes que vous recevez concrètement ? Comment vous les vérifiez ? Quels sont les livrables que vous allez fournir ? Est-ce que c'est un rapport ? Est-ce que c'est un tableau de bord ? Etc. etc. Qu'on voit vraiment que la personne s'est posé la question et qu'elle est en capacité de faire. Ensuite, on va demander une référence. Ça dépend si vous êtes en provisoire ou en définitive. Mais globalement, sur la référence, on va demander aussi vos livrables. Donc particulièrement la charte BIM qui a été produite ou le cahier des charges BIM suivant le cas où on va être. Et donc là, on va analyser en fait le contenu de la charte, comment elle a été construite. Et au niveau du cahier des charges, c'est la même chose. Si c'est un cahier des charges, on va regarder effectivement les contenus. Donc là, je vais passer sur la... Je vais assez vite, mais si vous avez des questions, on va passer sur la 19-21. Donc je laisse la parole à Adrien.
Rebonjour. du coup, là, la qualification 19-21, c'est bon au fond ? Vous m'entendez ? Impeccable. Donc cette qualification a pour but de mettre en exergue les sociétés d'ingénierie, donc qu'elles soient de maîtrise d'œuvre, d'architecture ou des entreprises d'exécution qui feraient également des études. L'idée, c'est de leur permettre d'avoir justement cette certification qui est un gage de qualité pour indiquer qu'ils font leurs études en BIM et qu'ils se servent du BIM pour faire leurs études. Donc, je passe très vite sur l'aspect définition. On va basculer sur du coup ce qui est demandé en termes de moyens humains. Donc, ce qu'on demande, les critères humains, c'est un référent ou un coordinateur BIM. Ce que j'entends par référent ou coordinateur BIM, on y reviendra après, mais déjà dans un premier temps, il faut qu'il soit issu du domaine du bâtiment, selon les trois cas qui sont indiqués que vous voyez devant vous. Donc juste pour info, niveau 7 ou 8, c'est maîtrise master. Niveau 5, c'est DUT, BTS, licence et autres, donc avec une expérience supérieure à 5 ans. Vous avez, je dirais, le choix, le choix entre ces trois propositions et associé à ça, soit la personne doit avoir une formation BIM supérieure ou égale à 5 jours minimum et avoir une expérience supérieure ou égale à 1 an en gestion de projet BIM. Ça, c'est un des choix possibles. L'autre choix possible, c'est une expérience supérieure à 3 ans en gestion de projet BIM. Ça, c'est sur le CV, entre guillemets, de la personne qui est susceptible d'être éligible à cette qualification d'ingénierie BIM. Maintenant, pour préciser un peu plus, sur les moyens humains, parce que c'est vrai que des fois, on reçoit des dossiers où on fait beaucoup de demandes complémentaires parce que les choses ne sont pas forcément bien cadrées. Donc, c'est l'occasion ici de pouvoir mettre en exergue un peu ce qu'on demande. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en fonction de la taille des différents bureaux d'études ou cabinets d'architecture, il y a des personnes qui peuvent jouer double rôle, c'est-à-dire à la fois le référent BIM et à la fois le coordinateur BIM pour le compte du bureau d'études ou de l'architecte. Ce qu'on entend par référent BIM, c'est une personne qui va, structurer, mettre en place le process BIM en interne. Comment les outils sont utilisés, comment les données sont échangées, quel est le processus interne. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui alimente, qui fait de la veille, que ce soit juridique ou technologique. BIMworld, par exemple, c'est un bon moyen de faire de la veille. Et le coordinateur BIM, c'est sur une partie, je dirais, un peu plus technique, associée au projet. C'est la personne qui va déposer les maquettes en temps et en heure sur une plateforme collaborative qui sera mise la plupart du temps par le BIM manager. C'est la personne qui vérifie la qualité des modèles, que ce soit en termes d'information ou en termes de load, hein, définition géométrique. Et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir aussi un rôle d'assistance pour les modeleurs en BIM en production et qui représente du coup au sein du projet la société. Voilà, et qui, garant de la bonne tenue des modèles. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend en termes de moyens humains. Attention, j'ai mis en bas, un référent BIM n'est pas un modeleur BIM. Juste parce que des fois, on reçoit des dossiers avec des modeleurs BIM, ce qui différence pas mal avec ce qui est attendu ici et ce que je viens de vous expliquer. Autre point qu'on examine, ce sont les moyens matériels. Alors, j'ai scindé en trois. Il y a les outils de production, les outils de vérification et les outils de collaboration. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont exposés ici. En termes d'outils de production, vous les retrouverez ici. Il y en a d'autres, mais j'ai mis, les plus génériques, ceux qu'on retrouve le plus. Les outils de vérification, pareil, et les outils de collaboration, c'est-à-dire comment sont échangées les plateformes, comment sont échangées les données au sein des plateformes, est-ce qu'on dépose les modèles numériques, est-ce qu'on fait de la gestion de BCF à l'intérieur des plateformes, etc., etc. Tout le monde a pris les photos ? Ensuite, il y a les moyens méthodologiques. je vais rebondir un peu ce que Julien a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la partie où je dirais qu'il y a, une forte demande de, complément d'information. Là, j'ai essayé de lister, globalement ce qu'on attend dans une note méthodologique, c'est-à-dire une organisation en interne, c'est-à-dire comment vous fonctionnez en interne, que ce soit les responsabilités, les fonctions et les rôles de chacun, et aussi méthodologie, structuration et outils, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de Revit parce que je ne suis pas un pro Revit, mais un peu, petit peu quand même. Comment vous fabriquez vos familles, est-ce que vous structurez vos données d'une certaine manière, est-ce que vous créez des paramètres partagés qui après sont distribués sur l'ensemble de vos familles suivant une règle de nommage bien particulière. Voilà, c'est vraiment ce qu'on attend de vous, savoir aussi comment vous stockez vos maquettes, comment vous structurez votre arborescence de vue, livrable, coordination, travail, lot par lot, est-ce que vous fonctionnez en termes de sous-projets, est-ce que voilà. Globalement, comment vous fonctionnez en interne. Et après, c'est la gestion des échanges, parce que le BIM, c'est de la production graphique, c'est sûr, mais c'est avant tout un processus d'échange. Et donc, comment en interne, au sein d'un bureau d'études, par exemple, quelle est l'interaction entre un chef de projet, un ingénieur, un coordinateur BIM ? Comment fonctionne ce trio gagnant, si je puis dire, pour que derrière, tout se passe correctement ? Et puis, du coup, derrière, on s'ensuit le processus de travail à partir des modèles. Donc, tout ce qui est exploitation de la donnée. Par exemple, vous avez une filiale ou une partie qui fait de la structure. Vous êtes fluide, mais vous faites aussi la structure. Comment les données sont intégrées dans les modèles ou dans les outils de production ou les outils de calcul en structure, par exemple, pour établir vos modèles structurels, vos modèles analytiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que, par exemple, vous utilisez la maquette pour calculer vos débits ou vos pertes de charge en CV ? C'est voilà, ce genre de là. C'est votre méthodologie qu'on attend. Et surtout, j'ai mis la petite croix à droite, on n'attend pas une mission. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, on nous donne des conventions BIM. Et ce n'est pas, vraiment ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est vraiment quelque chose en interne. Comment vous fonctionnez en interne. C'est vraiment pas une convention BIM d'un projet avec les rôles des différents acteurs BIM au sein d'un projet, que ce soit le coordinateur, le BIM manager, etc. Voilà. Et derrière, on demande une référence également, donc sur une autre partie, une référence. Donc il faut présenter une référence, terminée ou en cours, ainsi que la convention, plus des exemples d'utilisation de l'information, c'est-à-dire à la fois des nomenclatures, d'extraction de quantitatifs, une arborescence et des exemples de livrables, que ce soit des plans, des vues 3D ou des perspectives. Vous pouvez postuler, même si la qualification, enfin si votre référence n'est pas terminée, aujourd'hui au sein de l'OPQB, il existe des qualifications probatoires, et donc du coup, vous présentez quand même l'ensemble de ces éléments-là, et une qualification probatoire vous sera donnée en fonction de vos moyens humains, de vos moyens méthodologiques, etc. Voilà. Je laisse la parole à Julien.
Oui, donc rebonjour, heureux d'ailleurs. Là, on va parler plutôt de la mission de BIM Management. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Ce qui est fondamental, quand même, c'est d'avoir en tête, c'est que quand les gens postulent, on est bien... qu'on comprenne bien que c'est quelque chose qu'ils se sont approprié, c'est ce que a été aussi rappelé par Adrien, parce que souvent on retrouve, j'insiste beaucoup, mais des généralités, et donc c'est vraiment de voir comment ça fonctionne au sein du process. Au niveau de la définition qu'on a du BIM manager, globalement pour nous c'est la personne qui est garante du succès, je dirais, du processus BIM qui est mis en œuvre au sein de la maîtrise d'œuvre ou au sein de l'équipe d'exécution, parce qu'on a deux types de BIM management, en conception et en exécution. Et donc, c'est vraiment de voir ce périmètre-là. En aucun cas, c'est quelqu'un qui va faire effectivement de la conception ou qui va modéliser. C'est vraiment quelqu'un qui va mettre en place notamment la convention BIM, qui va s'approprier en fait la charte et les exigences du maître d'ouvrage et qui va les décliner opérationnellement au sein du projet. Donc, c'est vraiment ce qu'on va regarder. Au niveau des compétences, globalement, on reste toujours à peu près sur les mêmes choses. La particularité au niveau du BIM management, c'est qu'on a des cas où on peut avoir des personnes qui ont moins d'expérience et on va leur demander une formation minimum de 7 jours, donc une formation qui est décrite. Une chose sur laquelle j'insiste, c'est que quand on parle de formation, on reçoit souvent des gens qui ont eu des formations sur Revit, sur Archicad, etc. C'est en aucun cas pour nous une formation, enfin, c'est pas un critère intéressant. Aujourd'hui, on ne demande pas aux gens de savoir utiliser un outil, sans le citer qui que ce soit. On veut que les gens se soient appropriés en fait un processus, une capacité à travailler et à collaborer. Donc dire qu'effectivement on est ceinture noire en Revit, pour moi ça veut pas dire, enfin pour nous du moins à l'OPQBI, ça veut pas dire qu'on est un bon BIM manager. On fait vraiment le distinguo entre les deux. Et on demande également 3 ans d'expérience sur des missions de BIM management. Donc ça veut dire qu'effectivement au travers des références qui sont proposées par la personne, on va voir effectivement qu'il a pu travailler au moins depuis 3 ans sur des projets en BIM management. Au niveau des moyens matériels, on reprend, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais globalement, c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur les différents logiciels. Bon, on n'a pas tellement de moyens de vérification, mais on sait qu'il faut qu'il y ait un package minimal pour réaliser la mission, notamment en ce qui concerne les contrôles et les vérifications des données. Moi, je regarde beaucoup ça. En fait, la capacité qu'a le BIM manager à vérifier les livrables. Après, au niveau de la plateforme, c'est pas forcément lui qui la met en œuvre, elle peut être proposée par la maîtrise d'ouvrage. Et les logiciels, ils maîtrisent pas forcément tout. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il soit en capacité, à minima, de bien vérifier les livrables. Je reviens sur le critère méthodologique. C'est quelque chose qui est, je l'avais dit tout à l'heure pour l'AMO, c'est là-dessus où souvent, on a des dossiers qui passent pas. Parce qu'une fois de plus, on ne comprend pas comment le processus BIM est mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on va expliquer peut-être des tâches ou des choses comme ça, mais on ne comprend pas effectivement quelles sont les différentes étapes indispensables, c'est-à-dire la bonne appropriation de la charte, surtout la rédaction de la convention, comment elle est rédigée, est-ce qu'effectivement il y a des échanges avec les autres acteurs du projet, qui c'est qui la valide et comment elle va vivre au fur et à mesure du projet. Comment, je reviens sur le contrôle des livrables, je m'assure qu'effectivement les livrables sont bien contrôlés, qu'est-ce que je vais remettre au maître d'ouvrage, comment je vais animer la cellule BIM aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais donner à l'équipe de maîtrise d'œuvre, par exemple au bureau d'études et aux architectes, est-ce que c'est effectivement des tableaux, est-ce que je vais travailler avec des BCF par exemple pour échanger. Donc c'est vraiment d'expliquer concrètement comment ça se passe. Ensuite, on a également des références, où c'est là où on va récolter en fait tous les livrables et les documents qui sont produits dans le cadre d'une mission. Donc là, on demande 3 références, notamment pour la qualification définitive. Donc des références sur lesquelles devront apparaître tout ce qui concerne la convention BIM, sur laquelle doit apparaître le BIM manager, parce qu'on a eu des cas quand même où la convention BIM, il n'y avait même pas le nom de l'entreprise ou de la personne qui était censée être qualifiée, donc qu'il apparaisse bien pour qu'on voit qu'il a travaillé sur le projet. Qu'on ait aussi des missions qui soient terminées, c'est en discussion, mais aujourd'hui on souhaite qu'on soit vraiment sur un processus complet, donc depuis la conception jusqu'au DOE, donc on va vérifier effectivement que tout a bien été mis en place. Comme a dit Adrien, on va demander également des maquettes, des livrables, des vues sur on va dire une arborescence projet, on va demander peut-être des nomenclatures, des choses comme ça, et voir si effectivement le processus BIM a bien été mis en œuvre. Un autre point de vigilance aussi, ce qu'on regarde beaucoup, c'est qu'on veut s'assurer que ce soit vraiment du BIM qui a été fait sur le projet. On a eu des cas où c'était des gens qui faisaient de la synthèse et qui se présentaient en BIM manager. En gros, j'ai vérifié la coordination 3D des maquettes, j'ai fait la synthèse sur le projet et j'ai fait le processus BIM. Pour nous, c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas antinomique. On peut faire aussi le BIM management et la synthèse, mais faire une mission de synthèse, pour nous, ce n'est pas être BIM manager. Au même titre que dire que la maquette elle a été produite en 3D, quel que soit l'outil, c'est pas forcément faire du BIM. Derrière, on demande 5 usages, à minima. Donc, en termes d'usage, il y aura forcément la modélisation 3D, mais on peut retrouver, par exemple, la 4D, donc la gestion du temps, la gestion des coûts, on peut retrouver le DOE, mais s'il n'y a pas eu un minimum d'usage et de données échangées sur le projet, on considère qu'on est plutôt sur de la modélisation 3D, et pour caricaturer, sur du SketchUp. Donc ça, c'est très, très important aussi. Donc ça, c'est ton rôle. Voilà. Si vous avez des questions, c'est très long à raconter, mais allez-y.
Merci, Julien. Je vais conclure sur, comment un prestataire peut obtenir sa qualification, ou en tout cas la demander, et 2, comment les maîtres d'ouvrage peuvent utiliser l'OPQIBI dans leur recherche de prestataires. Donc le processus de qualification, je vais aller très vite parce qu'il est identique à n'importe quelle autre qualification à l'OPQIBI. Donc il y a la constitution d'un dossier et dans ce dossier, on doit retrouver tout ce que vous ont présenté Julien et Adrien de manière à vérifier que les critères sont satisfaits ou non. Donc ce dossier va faire l'objet d'une étude de complétude. S'il est complet, on va le transmettre à des instructeurs. Ce qui est important, c'est que ces instructeurs, ce ne sont pas du personnel administratif de l'OPQIBI, hein, ce sont des professionnels métiers. Et parmi nos instructeurs, donc nous avons Adrien Lipsard et Julien, on a 4 ou 5 instructeurs aujourd'hui, donc qui sont vraiment des professionnels du BIM. Hein, ce n'est pas un contrôle administratif. Le contrôle administratif, il se fait au niveau de la complétude du dossier et ce sont mes collaborateurs là qui s'en occupent. Mais on fait appel aux professionnels pour vérifier que les exigences sont respectées ou non. Donc ces professionnels vont rédiger des rapports d'instruction et ils vont venir présenter ces rapports d'instruction devant le comité de qualification ad hoc qui est celui qui va décider collégialement d'attribuer ou non les qualifications. Donc s'il y a décision d'attribution, il y aura notification et délivrance d'un certificat de qualification ou de qualification probatoire s'il s'agit d'une qualification probatoire. S'il y a un refus, il y aura notification du refus avec les motivations de ce refus de manière à ce que la structure sache pourquoi il a été décidé de ne pas lui attribuer la qualification. Alors Adrien et Julien en ont parlé, il y a deux types de niveaux dans la qualification. Il y a je remplis l'ensemble des critères, j'obtiens un certificat de qualification. Je suis une jeune structure ou une structure en cours de diversification et je n'ai pas encore de référence à présenter, je peux prétendre dans un premier temps à une qualification probatoire. Hein ? La qualification, elle est valable 4 ans, contrôlée tous les ans. Hein ? Normalement, on va vérifier que les critères, notamment les moyens humains, les référents techniques sont toujours présents dans la structure. Mais on vérifie aussi un certain nombre d'autres critères. Et la qualification probatoire, elle est valable 1 an et elle peut être renouvelée une fois, donc au maximum 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y a obligation de présenter des références pour obtenir une qualification définitive. À défaut, la qualification probatoire est retirée. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on demande une qualification qu'on l'obtient, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc il y a pas mal de refus, notamment sur le BIM. On verra tout. Je vous ai mis en dernière diapo les chiffres. À peu près 20% de refus de manière globale. Mais pour les premières demandes, ce taux est un peu plus important. Alors, c'est pas parce qu'on a refusé une qualification que ça s'arrête là. Le prestataire peut déposer un recours, il peut faire appel hein, en fonction des motivations qu'on lui aura transmises. Et il pourra présenter de nouveaux justificatifs s'il en a. Et parallèlement, un client qui fait appel à un prestataire qualifié en BIM et qui n'est pas satisfait de la prestation de ce prestataire peut déposer une réclamation auprès de l'OPQIBI et l'OPQIBI va traiter cette réclamation et ça peut aboutir à un retrait de qualification ou une suspension de qualification. Alors pour terminer, je vous ai mis quelques chiffres. Donc les qualifications, comme je vous l'ai dit en introduction, elles ont été mises en place en 2020. On a commencé à avoir des demandes mi-2020. Sur les 3 qualifications, vous avez dans la colonne de gauche le nombre de demandes que nous avons obtenues. Ensuite, le nombre de qualifiés. Parmi ces qualifiés, vous voyez, il y a ceux qui sont qualifiés en définitif et ceux qui sont qualifiés en probatoire. Le nombre de refusés et les qualifications actuellement en cours de traitement. Donc, voilà aujourd'hui le nombre de qualifiés à ce jour en BIM, dans l'une des 3 qualifications BIM. Alors justement, pour pouvoir faire appel à ces qualifiés, un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il peut faire ? Un, il peut déjà utiliser notre annuaire en ligne et trouver les prestataires qui ont la qualification AMO BIM, BIM Management, etc. Mais il peut aussi, si c'est un maître d'ouvrage public, un maître d'ouvrage privé peut faire ce qu'il veut, donc il peut exiger qu'un prestataire soit qualifié, mais vous avez les maîtres d'ouvrage public qui peuvent aussi demander, voire exiger. D'ailleurs, il y a eu un article la semaine dernière sur le Moniteur, hein, sur l'exigence de compétences BIM dans les marchés publics. Il peut exiger qu'un prestataire soit titulaire d'une qualification BIM en laissant la possibilité à ceux qui ne sont pas qualifiés de présenter des références ou des signes de qualité équivalentes. Mais il y a d'ailleurs de plus en plus d'appels d'offres publics qui commencent à demander les qualifications BIM qui ont été mises en place il y a 2 ans. Voilà. Donc, pour l'annuaire en ligne et pour toute autre demande sur les prestataires qualifiés, vous avez le site opqbi.com. Voilà pour les interventions.
Merci, merci. Non, on va y arriver. Voilà, ça y est. Merci pour ces présentations claires. Et comme toute présentation claire, ça va susciter, j'imagine, des questions qui vont être claires. Donc, on vous l'avait promis en ouvrant cette conférence. J'ai désormais un micro qui va me servir à faire le promenade dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nos intervenants sont là pour vous répondre. C'est toujours la première qui est difficile. Après, en général, ça va mieux. Messieurs, pas de questions. Est-ce que vous vous attendiez, vous, à une question, à une autre question ? Est-ce que vous aviez déjà une idée de question qui pouvait se poser ? Stéphane Mouchot.
Tout était clair, a priori. Je vais redire ce que je crois Julien a dit. Quand on a mis en place ces qualifications, il était évident qu'on ne cherchait pas à avoir des SS2I. On voulait des professionnels métiers de la construction, en l'occurrence du bâtiment, parce que vous avez vu que les qualifications s'appliquent au bâtiment pour le moment. Et donc, pas des SS2I ou des utilisateurs de logiciels. Donc, c'est pour ça que le contenu des qualifications a été orienté vers les professionnels de l'ingénierie au sens large et de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'était aussi pour mettre une limite et pour que n'importe qui ne puisse pas demander une qualification BIM, parce qu'il faut que les maîtres d'ouvrage sachent quels prestataires ils ont en face d'eux.
Une question.
Oui, alors merci pour la présentation. Alors ma question est la suivante. Dans le monde des certifications et des qualifications orientées BIM, est-ce que vous êtes les seuls à proposer des solutions ou bien il y a d'autres entreprises ou d'autres sociétés comme vous qui proposaient ce genre de choses ?
Alors,
de la vôtre au sein de toutes les autres qui existent ?
Alors au jour d'aujourd'hui, pour le domaine de l'ingénierie et même pour le domaine des entreprises, il n'y a que l'OPQBI qui a mis en place ces qualifications. D'ailleurs, on nous avait demandé de les mettre en place il y a 5 ou 6 ans. On n'avait pas donné de réponse définitive parce qu'on n'était pas suffisamment mûr. Et il y a eu véritablement, il y a 3 ans, une demande de la part de certains maîtres d'ouvrage et de certains professionnels représentés par les fédérations professionnelles pour mettre en place ces qualifications. Donc, à ce jour, à ma connaissance, en tout cas pour le domaine de l'ingénierie, c'est sûr, mais pour le domaine de la construction, pour ce type de qualification, il n'y a que notre organisme.
Une autre question, madame.
Merci, bonjour. J'aurais aimé savoir si votre annuaire, est-ce que votre annuaire est mis à jour en temps réel ? C'est-à-dire que, comme vous avez dit, il y a des révisions des habilitations ou de la qualification tous les ans, même si elle est valable pendant 4 ans. Donc, est-ce que sur l'annuaire, je peux voir que la société est habilitée pour 4 ans, mais que sa révision a bien été faite, etc.
Oui, bien sûr. C'est l'intérêt d'un annuaire, surtout un annuaire de qualifié. Donc l'annuaire est mis en ligne à chaque fois que l'on fait des actualisations. Comme vous l'avez dit, la qualification elle est valable 4 ans, mais elle est contrôlée tous les ans. Et si par exemple un prestataire qualifié ne renvoie pas son dossier de contrôle annuel dans les temps, il est dans un premier temps suspendu donc, de l'annuaire et il sera réintégré que si nous avons la possibilité de vérifier que les critères sont toujours satisfaits.
J'avais peut-être une question, Stéphane Mouchot. Quel type d'accompagnement vous me proposez si je viens déposer un dossier ?
Alors, nous proposons aucun accompagnement pour la simple et bonne raison que, étant accrédité par le Comité français d'accréditation, le COFRAC, nous ne devons ni former, ni accompagner, ni conseiller les postulants à la qualification. On se doit d'être impartial.
Ça permettait d'être clair et donc de faire le point. Merci messieurs pour vos informations. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt, au revoir.
Merci.